9h-10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, au programme de l'actualité de demain, la rentrée scolaire, l'extrême droite italienne chassée du pouvoir, l'Amazonie qui continue de brûler, Israël et ses mauvais juifs, et une fête de famille qui tourne mal. On va parler du Brésil avec l'historienne Mochirio, de l'Italie avec l'essayiste Giuliano D'Ampoli, d'Israël avec l'ancien correspondant du Monde Piotr Smolar, du cinéma avec le réalisateur Cédric Kahn, fête de famille et son nouveau film avec Catherine Deneuve et Emmanuel Berco en salle mercredi prochain. Et puis les journalistes Guillemette Faure et Louise Touret vont nous expliquer pourquoi et comment les enfants de profs réussissent mieux que les autres.
Suivez-moi, mes enfants, et marchez doucement. Vous allez voir comment un professeur s'y prend.
Oui, nous allons voir comment un professeur s'y prend.
Mais oui, comment s'y prennent-ils? Claude Piéplus chantait sur un disque de Babar. C'était la touche de modernité de C'est arrivé demain.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Demain, la rentrée scolaire pour 12 400 000 élèves et pour 20 millions de parents à peu près. La crainte de l'échec et des mauvaises notes, l'envie que leurs enfants aient envie d'école, envie d'apprendre et qu'ils se sentent bien en classe avec leurs profs. Voici donc un livre qui pourra vous aider, chers parents auditeurs, pourquoi les enfants de profs réussissent mieux que les autres et on pourrait ajouter, et pourquoi surtout ce que font les profs avec leurs enfants peut servir aux parents qui ne sont pas profs. Bonjour Guillemette Faure.
Bonjour.
Bonjour Louise Touret.
Bonjour.
D'abord, il y a plein d'exemples de célébrités dans votre livre. Marcel Pagnol, en exergue, bien sûr, La gloire de mon père. Mais est-ce que c'est prouvé que globalement, les enfants de profs réussissent mieux que les autres?
Alors, il y a des études, on s'appuie sur des travaux scientifiques, des thèses comme celle d'Annie Lan, bon, ça ne dira rien aux auditeurs, mais aussi des chercheurs, par exemple Patrick Rayou et Séverine Kakpo, qui avaient étudié très précisément comment les professeurs font faire leurs devoirs aux enfants. Et ils se rendaient compte, et c'est ce que nous ont raconté aussi les témoins, qu'il y avait moins de stress, moins de pression, que finalement ils laissaient leurs enfants être plus autonomes et qu'il y avait une plus grande confiance dans les capacités de leurs enfants. J'ai noté, vous avez commencé par rentrer, crainte des mauvaises notes. Ben c'est justement peut-être ce que les professeurs n'éprouvent pas, c'est-à-dire rentrer, ben on retourne à l'école, c'est bien, on va apprendre des choses, c'est plutôt chouette d'aller à l'école d'apprendre et on n'a pas peur de ça.
Il y a une façon plus bienveillante et dépassionnée d'appréhender l'école. Les évidences ne sont pas forcément là, Guillemette Faure. Hein. C'est pas forcément parce que les profs ont le temps de refaire la classe à la maison.
Oui, c'est-à-dire qu'on a plein de clichés. On s'imagine que grosso modo que la vie des enfants de profs, c'est un immense cours particulier. Alors qu'en fait, une institutrice de CP, elle ne connaît pas les programmes de sciences de première S. Donc, on voit bien que c'est beaucoup plus par une attitude que par cette tendance-là. Louise l'a dit, les études montrent que, par exemple, les parents profs sont moins derrière leurs enfants pour les devoirs que les parents qui ne sont pas profs. Et on a eu comme ça énormément de surprises sur, par exemple, le rapport à la note, effectivement, où les parents profs sont plus sensibles à l'évaluation, parce que l'évaluation, c'est quelque chose sur lequel les enfants peuvent travailler eux-mêmes, que sur la note elle-même, en disant, de toute façon, il y a plein de façons d'avoir 13, donc 13, ça ne veut rien dire.
Alors, il y a pas mal d'enfants de profs qui ont gardé le culte de l'école, parfois parce qu'ils y ont eux-mêmes habité, hein, c'est les fils de directeur ou directrice, le logement de fonction au-dessus des classes. Il y a Philippe Besson, Élise Lucet qui témoignent là-dessus, c'est pas évident de se sentir chez soi à l'école. Vous rappelez ce classement réalisé au sein des pays de l'OCDE où les élèves français arrivent les derniers sur l'affirmation « l'école est un endroit où je me sens chez moi ».
Alors il y a ça, et puis il y a surtout en France cette statistique horrible que la France est un pays qui reproduit très très bien et beaucoup trop bien les inégalités sociales dans la réussite scolaire. Nous, ce qu'on note, c'est que les professeurs ne sont pas des privilégiés. En France, les enseignants ne gagnent pas particulièrement bien leur vie. Donc c'est des gens qui vont faire réussir leurs enfants, non pas avec les armes que beaucoup de gens utilisent, c'est-à-dire payer des cours particuliers, parce que là, on est premier aussi en Europe pour les cours particuliers.
Pas de voyage aux États-Unis pour apprendre l'anglais, enfin ils se débrouillent avec les moyens du bord.
Et les moyens du bord, c'est faire confiance à son enfant. Je le répète, c'est vraiment la clé. Et puis aussi, avoir une vision plus... C'est pas de la bienveillance que envers son enfant, c'est aussi de la bienveillance envers l'école.
Voilà, alors inculquer le respect de l'école, du matériel scolaire.
Ne pas critiquer les enseignants
de son enfant. Le respect
des
livres, voilà, respect des enseignants, ça c'est l'un des conseils que vous donnez. Surtout ne pas dénigrer les profs devant ses enfants.
Alors ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, le fait qu'on dit pas de mal des profs. Alors ça veut pas dire que les parents profs n'en pensent pas, mais c'est simplement que l'idée qu'ils transmettent à leurs enfants, c'est que tu ne vas pas choisir tes profs, tu es en charge de ton éducation seule, donc tu fais avec ce que tu as. Et tu ne peux pas t'excuser en disant le prof était de mauvaise humeur, le prof m'a demandé. En fait, il faut faire avec.
Édouard Philippe, le Premier ministre, fils d'enseignant, a témoigné de ça. Il a dit, tu devras composer avec les mauvais profs. Si tu as de mauvaises notes, ce sera ta faute et pas de celle des profs.
Ben c'est une bonne leçon de vie.
Alors justement, puisque c'est demain la rentrée, vous dites surtout, surtout ne pas présenter l'école comme une punition, donc ne pas dire à ses enfants. Alors, pas trop triste de retourner en classe ?
Pas trop triste de retourner en classe en septembre, le lundi. Pas associer l'école en fait au travail. C'est autre chose, l'école. Et on peut, bon, j'ai été très heureuse à l'école, je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'enseignants. On peut dire que c'est aussi un endroit chouette où on s'amuse. Bon, évidemment, on peut s'y ennuyer un petit peu. Mais si, dans son discours, on associe l'école à quelque chose de l'ordre de la souffrance ou de l'obligation triste et répétitive parce qu'on l'a mal vécu, et c'est vraiment un vécu de plein de parents, on le sait très bien, on introduit une idée très forte dans la tête de son enfant et finalement, ces représentations, elles vont compter énormément dans toute la vie. Vous savez, les idées qu'on se fait sur les choses sont parfois plus fortes que le réel.
Les conseils que vous donnez aussi, c'est l'implication, autant qu'il est possible, des parents dans le travail scolaire, la vie scolaire, se rendre à l'école de ses enfants, passer la porte dès que c'est possible, échanger avec les enseignants.
Et mais paradoxalement, les parents profs se rendent compte aussi, justement, parce que leur semaine passe très très vite à l'école, qu'ils ne misent pas que sur l'école. Parce que finalement, l'école, c'est 15% du temps éveillé des enfants. Donc, il en reste 85% et ils les investissent beaucoup plus, donc, que ce soit les loisirs, les vacances, où ça va être des occasions de transmettre en faisant la cuisine, d'utiliser le quotidien pour valoriser ce qu'on a appris en classe.
Ce qui est fondamental, il y a un sociologue qui s'appelle Bernard Lahir qui sort un livre de 1200 pages sur la question. Et bon, c'est vraiment plus ambitieux que notre livre, plus universitaire aussi. Et tout ce travail qui est fait par les parents, qui n'est pas un travail, qui est une manière de vivre, d'aborder les choses. Pourquoi ne pas faire compter la monnaie, les couverts aux enfants quand on fait une recette de cuisine ? Bah, c'est toujours une expérience. Alors pour les tout-petits, on fait du transvasement, puis après on regarde les quantités. Mais bon, je parle un peu avec des mots de prof, mais ça, c'est des petites occasions de lier ce qu'on apprend à l'école avec ce dont on a besoin dans la vie. Et finalement, ce décrochage entre l'école et la vie, c'est ce qui parfois crée cette distance. Et puis à la fin, les mauvaises notes dont vous parliez au début, Patrick.
La question des devoirs, on en a parlé. Encourager l'enfant quand il fait ses devoirs. Donner l'exemple aussi, et on va s'arrêter là après. C'est-à-dire, vous dites, ne pas travailler dans le canapé avec son ordinateur sur les genoux le soir, avec la télé allumée, en attendant de son enfant qu'il travaille à son bureau et sans musique. Ça, c'est important, ça. Hein
oui, mais ceci dit, alors qu'on a souvent honte de ramener du travail à la maison, les enseignants, c'est la profession qui ramène le plus de travail à la maison et qui, en se mettant au travail devant les enfants, transmettent une routine quotidienne que d'autres professions ne transmettent pas.
Vous avez beaucoup de témoignages de personnalités qui disent « Moi, j'ai vu mes parents profs concentrés sur la correction de leurs copies. C'est l'image qu'ils gardent de leurs parents. »
Parce que les enseignants travaillent beaucoup à la maison et préparer des cours et corriger des copies, ça prend beaucoup de temps. Donc
vous avez parlé de Marcel Pagnol, mais les enfants d'enseignants, c'est aussi Aurel San, Romain Bardet, enfin c'est toutes sortes de...
Et même Patrick Drahi, le milliardaire homme d'affaires. Merci, il y a beaucoup d'autres choses dans votre livre. Guillemette Faure, Louise Touret, Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux que les autres, c'est à lire aux éditions Les Arènes. Merci à vous.
Merci. Europe 1.
Dans un instant, l'Amazonie qui brûle, la catastrophe qui continue, ce n'est pas un accident, c'est bien le projet politique du président Bolsonaro, nous dira l'historienne spécialiste du Brésil, Maud Chirio.
Europe 1. Jusqu'à 10h, comme chaque dimanche, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Demain, la catastrophe écologique va continuer en Amazonie puisque la plus grande forêt tropicale du monde ne cesse de flamber avec plusieurs centaines de départs de feu observés chaque jour. Et ce n'est pas l'interdiction pour 2 mois des brûlis agricoles décrétée par le président Bolsonaro qui devrait y changer grand-chose. Mais quelle est la part de responsabilité du pouvoir politique brésilien dans la déforestation? Comment stopper ces milliers de paysans qui allument des feux pour défricher ou agrandir leurs terres? Bonjour Mochirio.
Bonjour.
Historienne spécialiste du Brésil, vous enseignez à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et vous dites, vous l'avez écrit cette semaine dans Le Monde, ce qui se passe en Amazonie, ce n'est pas une catastrophe naturelle, évidemment, pas une série d'accidents ou d'initiatives, c'est une logique collective, un projet politique. Que voulez-vous dire ?
Je veux dire que, bien sûr, il y a des circonstances naturelles qui aident à la propagation des feux. C'est la saison sèche, elle est particulièrement sèche et elle est particulièrement chaude. Donc, il y a un contexte climatique qui aide à ces feux. Mais ces feux, non seulement ils sont allumés, comme depuis longtemps, par des hommes, hein, plutôt par des représentants de grandes propriétés terriennes que par des petits paysans. Hein. Le mot paysan évoque en France plutôt des petits travailleurs de la terre. C'est plutôt des grandes puissances économiques qui défrichent.
On a vu tout de même dans des reportages des petits propriétaires allumer des feux pour, dans le but clairement d'agrandir un peu leurs espaces.
Alors, hein. les petits propriétaires, il faut voir les échelles, hein, c'est en général, ce serait considéré comme des grands propriétaires pour nous, et ils vendent à des grandes entreprises, à des grands secteurs d'agrobusiness, le soja ou la viande qu'ils vont installer sur les terres forestières.
Donc en majorité, ce sont des gros et ils sont encouragés ?
Ils sont très nettement encouragés par le pouvoir qui considère que, et le président Bolsonaro l'a dit, l'Amazonie, comme une forêt primaire, est un obstacle au développement du pays. Et les réserves indiennes, plus encore un obstacle au développement du pays. Il faut signaler, par exemple, un exemple très concret, hein, qu'avant-hier, un projet d'amendement constitutionnel a été voté au Parlement pour permettre la culture sur les réserves indigènes, dans les réserves indigènes. Donc, même en situation de grand incendie, le camp au pouvoir, et en particulier le parti du président, ne modifie pas son projet, qui est de modifier très substantiellement l'usage des sols en Amazonie.
Mais le Brésil a vraiment besoin de défricher pour se développer, ou bien de la part de Bolsonaro, c'est à des fins électoralistes.
Bien sûr que le Brésil n'a pas besoin de défricher. Le Brésil a d'énormes surfaces qui peuvent être utilisées de manière beaucoup plus intensive, hein, et beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Si la forêt amazonienne disparaît parce qu'elle est remplacée par du bétail et du soja, bien sûr, ça va enrichir tout un tas de secteurs d'agrobusiness. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Est-ce que c'est ça que la population brésilienne souhaite? À plus de 90%, elle considère que l'environnement est une préoccupation fondamentale. Donc ça ne correspond pas véritablement, même ce à pourquoi les Brésiliens ont voté en fait en élisant Bolsonaro. Il a été élu pour des raisons qui ne sont pas exactement celles qui guident son gouvernement.
Oui, mais lui prend le contre-pied de l'opinion mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'idéologie contre la bien-pensance écologique?
Ah, bien sûr, en fait, ce qui explique en fait les deux grands facteurs qui expliquent la logique des défrichements, c'est l'argent, c'est le fait de vouloir avoir plus de terres pour développer des cultures, du bétail, du soja, etc. Et c'est l'idée qui est très forte dans les secteurs ultra-conservateurs et militaires en particulier, que des communautés au sein de la nation ont des privilèges indus. Les indigènes, mais aussi les femmes, mais aussi les homosexuels, et que tout ça, c'est du communautarisme, ce qu'on appelle le communautarisme, et que la défense des intérêts de ces communautés est illégitime, et que tout le monde devrait être considéré comme brésilien, donc que les réserves indigènes n'ont pas plus de réalité ou de légitimité que une réserve japonaise au milieu de la ville de São Paulo, par exemple. Et donc, il y a véritablement une idéologie selon laquelle on doit priver de droits spécifiques les Indiens, on doit priver de droits spécifiques qui les protègent, hein, toutes les communautés qui sont des communautés minoritaires, et que ces communautés, elles sont défendues par des puissances étrangères, les ONG, l'ONU. Et tout ça, ça fait partie d'un système de pensée qui n'est pas que brésilien, hein, qui existe très fortement aux États-Unis, par exemple. Hein, il y a des secteurs du Parti républicain qui sont exactement dans cette même ligne de pensée, depuis assez longtemps d'ailleurs. Et tout ça, ce serait des systèmes qui protégeraient les écosystèmes naturels et qui sont complètement discrédités par le pouvoir en place.
Quel est l'enjeu aujourd'hui pour les 5,5 millions de kilomètres carrés de forêt amazonienne? Pas seulement d'ailleurs au Brésil, hein, puisque c'est sur 9 pays alentour. Vous dites qu'on est proche d'un point de bascule. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que la forêt amazonienne est une forêt fluviale, c'est-à-dire que l'humidité qu'elle produit elle-même crée des pluies qui lui permettent de demeurer une forêt pluviale. Donc à partir du moment où elle s'assèche, où elle se réduit trop pour produire ses propres nuages, elle se transforme d'elle-même en savane sans qu'on ait besoin de la défricher ou de la brûler. Et ce point de basculement, les incendies et les défrichements continuent avec l'intensité et le rythme qui est le rythme actuel, on parle de quelques années pour que la forêt d'elle-même change profondément de nature. Donc il y a une véritable urgence, et pour agir, il faut que les pouvoirs en place, qu'ils soient d'extrême droite ou d'autres tendances politiques, puisque les pays voisins ne sont pas forcément d'extrême droite ou de droite, aient un intérêt à protéger. Et donc que d'autres puissances économiques exercent des pressions pour que la protection environnementale devienne plus intéressante pour ces pouvoirs-là que l'expansion des terres à cultiver ou à transformer en pâturage.
Donc vous croyez aux sanctions internationales ou en tout cas à des moyens de pression extérieurs?
À des sanctions économiques, oui. Il n'y a que ça. Actuellement, il n'y a que ça que le pouvoir politique brésilien comprend.
Et pas la pression intérieure. On a appris cette semaine que la popularité de Bolsonaro avait fortement chuté après la polémique.
Alors, la pression intérieure fonctionne d'autant mieux que les élections sont proches ou qu'il y a une menace de renversement. Et actuellement, Bolsonaro vient d'être élu et donc il n'attend pas des succès électoraux. Il aurait beaucoup plus de risques à perdre les grands lobbies économiques de son Parlement, qui se mettraient peut-être à moins voter les projets de loi qui émanent de l'exécutif. Et ces grands lobbies économiques, ils sont liés à l'agro-business et c'est sur eux qu'il faut faire pression.
Est-ce que de votre point de vue, Mochirio, Emmanuel Macron a eu raison de soulever, sans forcément y répondre, mais de soulever la question de la souveraineté internationale de l'Amazonie? C'est le point de fixation maintenant de Bolsonaro, il en parle tous les jours.
Alors, je pense que c'est compliqué parce que à l'intérieur du Brésil, ça a suscité énormément de réticences.
Un réflexe nationaliste,
souverainiste. C'est appuyé sur peu de droit international. Il n'y a pas de possibilité de considérer qu'un tel territoire puisse être internationalisé.
Sauf si le Brésil veut vendre, évidemment.
Sauf si le Brésil veut vendre comme le Groenland, hein. Ouais. Que le Danemark avait bien sûr prévu de vendre. Donc je pense que c'était un coup de com' qui était marqué par une trop faible connaissance du Brésil de la part du président français, même si la stratégie générale de l'affrontement a isolé Bolsonaro sur la scène internationale et a contribué à la chute de sa popularité à l'intérieur du pays. Donc l'action globale diplomatique était plutôt, à mon avis, positive. La question de la souveraineté de l'Amazonie était une erreur, à la fois une erreur juridique et une erreur diplomatique.
Merci Mochirio. Je rappelle que vous êtes historienne spécialiste du Brésil et que vous enseignez à Paris-Est, Marne-la-Vallée. Merci à vous.
Merci à vous. Europe 1.
Dans un instant, l'Italie, l'alliance contre nature entre sociodémocrates et mouvement 5 étoiles qui visait à mettre l'extrême droite hors jeu peut-elle marcher, peut-elle gouverner le pays? On en parle avec l'essayiste Giuliano D'Ampoli.
Europe 1. Vous écoutez la suite de cette arrivée demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Demain, l'Italie sera donc gouvernée par l'alliance improbable de deux partis jadis ennemis, les sociodémocrates et le mouvement 5 étoiles, alliance qui n'a d'autre but que de mettre l'extrême droite hors jeu et d'exclure du pouvoir son chef, Matteo Salvini. Mais pour combien de temps? Avec nous un ancien conseiller politique de Matteo Renzi, aujourd'hui à la tête du think tank Volta. Bonjour Giuliano D'Ampoli.
Bonjour.
D'abord, est-ce qu'on est certain que ce gouvernement va voir le jour? Il y a tellement de désaccords à surmonter entre les démocrates et les 5 étoiles.
Non, on n'est pas certain du tout. C'est-à-dire que les négociations sont encore en cours. Elles vont continuer probablement jusqu'à demain soir ou jusqu'à mardi. Et il y a encore plusieurs points qui restent tout à fait, qui séparent les positions du mouvement 5 étoiles du Parti démocrate de façon radicale. En plus, c'est deux cultures très différentes qui essaient de se parler et ne se comprennent pas toujours.
Et qui se sont beaucoup insultés et affrontés dans le passé, évidemment. Le point clé, c'est la politique du futur gouvernement à l'égard des migrants et de ceux qui se portent à leur secours et le sort des lois répressives que Salvini a fait voter avec le mouvement 5 étoiles. Je rappelle le dernier décret sécurité adopté en août, des amendes jusqu'à 1 million d'euros pour les bateaux de sauvetage d'ONG en Méditerranée, jusqu'à 10 ans de prison en cas de résistance. Est-ce que les démocrates peuvent accepter le maintien de ces mesures?
Non, évidemment pas. Je pense que là aussi, il va falloir trouver un équilibre. Le moteur derrière ces décrets, c'était justement l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui ne ferait pas partie, évidemment, du nouveau gouvernement. Donc, il y a de la part du Mouvement 5 étoiles aussi une disponibilité à revoir certains points du décret.
C'est pas ce qu'a dit Di Maio, hein, le chef de 5 étoiles.
Justement, ça fait partie du style de négociation assez brutal du mouvement 5 étoiles. Il est évident que le Parti démocrate ne pourrait pas accepter le maintien sur les thèmes de l'immigration, de la ligne hyper dure de Salvini. On n'assisterait plus, si le gouvernement se formait, aux scènes inhumaines auxquelles on a assisté au cours de cette dernière année et demie par rapport au bateau des migrants. Après, il est clair que le mouvement 5 étoiles ne peut pas accepter d'être complètement désavoué dans la politique qu'il a menée jusque-là. Donc, il va falloir trouver un point d'équilibre. Mais ce qui est vraiment important, c'est que je pense que ce gouvernement ne pourra naître que s'il y a de la part du mouvement 5 étoiles une évolution en sens européen, en général de ses politiques. Cette évolution a déjà été amorcée. Le mouvement 5 étoiles a voté pour la confirmation de la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, au Parlement européen. Il se peut qu'il entre à faire partie d'un groupe parlementaire européiste au Parlement européen. Ce serait un revirement radical qui affecterait évidemment toutes les politiques, non seulement sur la migration, mais les politiques économiques du nouveau gouvernement aussi.
Bon, mais ce sera, quoi qu'il en soit, s'il advient un gouvernement très fragile, et on peut dire que c'est une coalition encore plus dissemblable que celle formée par la Ligue et de Salvini et les 5 étoiles.
D'une certaine façon, oui, parce que la Ligue et le mouvement 5 étoiles avaient tous les deux la caractéristique d'être des partis, disons, violemment anti-système, anti-establishment. Ils étaient unis par une ligne anti-européenne, souverainiste, etc. Là, l'éventuelle coalition avec le Parti démocrate, évidemment, mènerait le gouvernement dans une direction différente.
Matteo Salvini a donc perdu son pari d'obtenir des élections anticipées et les pleins pouvoirs qu'il réclamait. Mais pour combien de temps? Est-ce que ce pacte démocrate 5 étoiles ne risque pas de lui profiter à Salvini à terme?
C'est le grand risque. En même temps, il faut bien voir que Salvini avait mis en place une machine de propagande qui s'appuyait sur son être à l'intérieur des institutions. Il a transformé le ministère de l'Intérieur en une machine de propagande surpuissante qui lui a permis de passer de 17% dans le vote de 2018 à 33% au vote des dernières élections européennes. Donc tout le pari de ce gouvernement, c'est que en remettant Salvini à l'opposition, et c'est d'ailleurs lui-même qui l'a fait tout seul, parce que c'est lui qui est sorti du gouvernement, il faut quand même bien se rappeler de ça, cette machine puisse être arrêtée.
Vous parliez il y a un instant, Giuliano D'Ampoli, de l'évolution du mouvement 5 étoiles vers des positions plus européennes. Est-ce que l'Europe peut et doit aider la nouvelle majorité italienne, et de quelle façon?
Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, si cette nouvelle majorité arrive à naître, elle naîtra justement dans un signe nettement plus coopératif par rapport à l'Europe, par rapport au gouvernement précédent. Mais je pense que c'est dans l'intention et dans l'intérêt des institutions européennes.
De quelle façon alors?
Il y a d'abord, il y aura la désignation des commissaires européens qui se fera dans la semaine, où l'éventuel commissaire italien pourrait avoir un rôle important, par exemple, si on lui confiait les affaires intérieures, c'est-à-dire toutes les questions relatives justement au thème de la migration, où il est quand même très important qu'une voix italienne soit présente et soit écoutée. Et puis, il y a de toute façon une évolution dans l'attitude par rapport aux politiques économiques et d'austérité et qui est en cours en Europe, même indépendamment de la situation italienne, mais qui est dans l'intérêt non seulement de l'Italie, mais d'une bonne partie des pays du sud de l'Europe.
Merci beaucoup Giuliano D'Ampoli, présidente du think tank Volta. Volta comme l'inventeur de la pile électrique ?
Tout à fait. Oui.
Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Europe 1.
Dans un instant, une courte pause avant d'accueillir l'ancien correspondant du journal Le Monde en Israël qui raconte le pays et qui se raconte, qui raconte aussi une histoire familiale dans un livre Mauvais Juif.
Europe 1. C'est arrivé demain, se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Piotr Smolar.
Bonjour Patrick Cohen.
Grand reporter au journal Le Monde, vous en avez été le correspondant en Israël pendant 5 ans et vous en rapportez un récit personnel et familial écrit à la première personne, Mauvais Juif, aux éditions des Équateurs, où se conjuguent trois destins, celui de votre père, Alexander, figure du mouvement démocratique polonais en exil dans les années 70, et surtout celui de votre grand-père, Grisha, chef du réseau de résistance du ghetto de Minsk, exclu du Parti communiste polonais après la guerre des Six Jours parce que accusé d'être pro-israélien, c'est-à-dire en quelque sorte d'être un mauvais juif, Grisha va quitter la Pologne et finir ses jours en Israël, un pays que vous ne connaissiez pas il y a 5 ans, ou quasiment pas, mais dont vous allez découvrir, comment dire, la crispation, voire l'enfermement identitaire.
Oui, c'est vrai que mon arrivée en Israël en septembre 2014 a correspondu au lendemain de la dernière guerre à Gaza, qui a fait près de 2200 morts du côté palestinien et environ 70 du côté israélien. Et que ça a été un moment d'accélération de l'histoire, en quelque sorte, où effectivement on a eu le sentiment que la droite israélienne se retrouvait engagée dans une forme de fuite en avant dans la politique identitaire. C'est-à-dire que dorénavant, en Israël, semble se dessiner un champ assez triste de nous contre eux. Nous, les patriotes, nous qui sommes engagés en faveur de la défense et de la sécurité d'Israël, et eux, les ennemis de l'intérieur ou les ennemis de l'extérieur, dans une espèce de grande confusion.
Avec un poids religieux de plus en plus fort, c'est un pays qui, non pas gouverné, mais largement régi par les religieux ultra-orthodoxes.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, même si les deux partis ultra-orthodoxes ont effectivement dans la coalition de droite un poids très important. Mais ce que j'ai cherché aussi à montrer dans ce livre, c'est à la fois la diversité des destins familiaux dans ma famille, comme vous l'avez mentionné, entre mon grand-père, mon père et moi, mais aussi la diversité d'Israël. C'est que je fais aussi parler dans ce livre des gens pour lesquels j'ai une grande affection, une grande tendresse, qui peuvent être, par exemple, un avocat très célèbre de la gauche israélienne qui s'appelle Michael Sfard, qui peut être aussi une femme rabbine avec une sorte de magnétisme et de charisme absolument exceptionnel. Donc, je voulais montrer aussi la diversité de ces sociétés israéliennes. Vous avez raison, il y a un poids du religieux qui se sent notamment à Jérusalem, qui est vraiment une ville, comme je l'écris, qui est absolument dépourvue de sens de l'humour, qui est une ville magnifique, une ville lumineuse, une ville fascinante, surtout quand on y passe, peut-être moins quand on y vit, mais qui est aussi une ville où la pesanteur du religieux vraiment se ressent de plus en plus année après année.
Vous vous rappelez par exemple qu'un grand nombre d'Israéliens originaires des pays de l'Est, de l'ancien espace soviétique, ne sont pas reconnus comme juifs, ce qui les interdit de mariage officiel et vont se marier à Chypre.
Oui, il y a un monopole du grand rabbinat sur tous les cycles de la vie juive, c'est-à-dire le mariage, le divorce... les funérailles, et ce monopole du grand rabbinat a été consolidé par Benjamin Netanyahou, par exemple en ce qui concerne l'accès au mur des lamentations que tous nos auditeurs connaissent au moins de nom. Cet accès-là, normalement, devait faire l'objet d'une sorte de compromis entre les différents courants du judaïsme pour permettre un accès mixte et notamment un espace dédié aux femmes. Malheureusement, ce compromis a été abandonné avec une forme de lâcheté politique de la part de Benjamin Netanyahou pour préserver sa coalition.
Netanyahou qui a joué un rôle central dans l'évolution que vous décrivez. Il est Premier ministre depuis 10 ans. C'est un opportuniste ou c'est un idéologue ?
Benjamin Netanyahou est d'abord une figure absolument fascinante pour nous journalistes, mais pour tous les citoyens du monde qui s'intéressent à ce qui se passe sur notre planète.
Il n'a pas de retenue, il n'a pas de pudeur, pas de...
Je pense qu'il a de la pudeur, il a une forme de pudeur, mais qu'il a surtout une forme d'opportunisme et de flair absolument remarquable. Attention, ça n'a rien à voir avec Donald Trump. C'est-à-dire que souvent, on a tendance un peu à mettre dans un grand sac populiste des dirigeants qui n'ont rien à voir. Benjamin Netanyahu est quelqu'un de très lettré, de très cultivé, qui a beaucoup, beaucoup lu dans sa vie, dont le père était un grand intellectuel de la droite nationaliste. Et Benjamin Netanyahou n'est pas du tout un décervelé. C'est au contraire quelqu'un qui est très réfléchi, mais qui pense avant tout à son propre intérêt et à court et moyen terme. Mais je tenais à dire quand même une chose, c'est que ce livre n'est pas un livre d'actualité. C'est un livre qui, je pense, permet d'éclairer l'actualité et la réalité d'Israël aujourd'hui, mais ce n'est pas un livre, comment dire, journalistique classique.
Non.
C'est-à-dire que j'ai essayé de construire en fait un kaléidoscope. Je ne sais pas si vous avez des enfants et si vous leur avez un jour offert cet instrument d'optique. C'est un instrument absolument merveilleux et qui permet de refléter des figures qui nous sont communes à tous. C'est des carrés, des losanges, des triangles, voilà. Et ces carrés, ces triangles, ces losanges forment des images absolument merveilleuses. Et bien dans mon livre, en fait, j'ai essayé aussi de mettre des carrés, des losanges qui sont en fait les carrés et les losanges de notre vie quotidienne à nous tous, que nous soyons familiers avec Israël ou pas, que nous soyons juifs ou pas. Et c'est quoi ces carrés, ces losanges? C'est l'idée de transmission, c'est l'idée d'héritage, c'est l'idée de passage d'un père à son fils, d'un grand-père à son petit-fils. C'est toutes ces idées aussi que j'essaie de transmettre dans ce livre, qui est aussi un récit, un roman réel, en quelque sorte.
Avec la figure omniprésente de votre grand-père, je parlais de son histoire tout à l'heure, votre grand-père et ses combats, et vous ne cessez de vous dire pendant votre séjour, mon grand-père, Grisha, ne reconnaîtrait plus le pays où il a immigré.
C'est vrai, mais pour ça, il faut dire quelques mots de mon grand-père, qui était vraiment une figure très particulière, malheureusement avec laquelle je n'ai jamais pu avoir de discussion sur son propre parcours, parce qu'il est mort quand j'étais encore assez jeune. Et mon grand-père est né dans l'est de la Pologne, et dès son plus jeune âge, il s'est engagé vraiment à corps perdu et à esprit perdu dans le communisme. C'était vraiment l'engagement de sa vie, la passion de sa vie. Et pendant la guerre, comme vous l'avez mentionné en votre introduction, il s'est retrouvé bloqué. Les Allemands, les nazis ont marché sur la Pologne. Il a dû fuir vers l'est et il s'est retrouvé en Biélorussie. Il s'est retrouvé à Minsk. Et un ghetto a été créé à Minsk. Un ghetto dont l'histoire est extrêmement méconnue. Et je veux que ce livre serve aussi à ça, à raconter l'histoire de ce ghetto. On connaît tous par l'école, par l'enseignement que nous pouvons recevoir ici, dans les écoles françaises. On connaît tous l'histoire, par exemple, du ghetto de Varsovie. Mais en revanche, l'histoire du ghetto de Minsk est beaucoup moins connue. Et mon grand-père s'est retrouvé là. Et par son expérience de la clandestinité au service de la cause communiste, il a effectivement fait partie de cette poignée de résistants qui a créé un réseau à l'intérieur du ghetto, non pas seulement pour combattre les Allemands, les nazis, mais aussi pour permettre aux Juifs qui se trouvaient encore à l'intérieur du ghetto de fuir et de rejoindre les forêts et de rejoindre les rangs des partisans. Et grâce à ce réseau, on estime qu'il y a environ 9 000, 10 000 Juifs qui ont pu ainsi être sauvés et rejoindre les forêts où ils étaient davantage à l'abri.
Et votre grand-père a témoigné devant la caméra de Claude Lanzmann, c'est la scène d'ouverture du livre. Je reviens à votre travail aussi, parce que c'est présent tout au long du livre, votre travail difficile de correspondant du monde en Israël, de correspondant occidental. Cette parenté-là, cette ascendance ne vous donne absolument aucune immunité. Au contraire, par exemple, après un papier sur les exactions de l'armée israélienne à Gaza, vous recevez un mail d'une femme dont vous avez failli louer la maison à Jérusalem. Honte sur vous, vos ancêtres doivent se retourner dans leur tombe.
Oui, alors cette anecdote, c'était du mari de cette agente immobilière. Alors cette anecdote est un tout petit peu trompeuse dans la mesure où en fait pendant 5 ans, j'ai dissimulé mes origines. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait par honte parce que je serais le millionième ou le 10 millionième exemplaire de juif torturé dans son identité. Je ne l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait avant tout pour ne pas parasiter la réception de mon travail.
Mais à cette femme et son mari, vous l'aviez dit.
C'est vrai, j'avais baissé ma garde un instant, en quelque sorte, et parce que c'était un moment convivial, j'avais parlé aussi de mes origines. Et immédiatement, le procès en trahison et en déloyauté m'a été adressé.
Donc, pour prendre l'une des questions de votre livre, Piotr Smolar, à qui devez-vous être fidèle?
Je pense d'abord que je dois être fidèle à l'éducation que j'ai reçue et que je souhaite à tous les enfants du monde. Et je pense que je ne me sens pas appartenir, je suis français de cœur et d'esprit, mais les communautés que je privilégie, ce sont les communautés de pensée et les communautés d'esprit.
Mauvais juif, Piotr Smolar, ce sera en librairie dans quelques jours aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1. Dans un instant, Fête de famille, le nouveau film de Cédric Kahn.
Europe 1.
De 9h à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Fête de famille de Cédric Kahn à l'affiche mercredi prochain avec Catherine Deneuve et Emmanuel Berco. Le film nous montre une très belle et vieille maison à la campagne dans le sud-ouest qui s'apprête à accueillir la fête d'anniversaire de la matriarche Andrea, c'est Catherine Deneuve. Elle a deux fils aussi dissemblables que possible, Romain, Vincent Macaigne, artiste fauché et on va dire cinéaste sans succès, et Vincent, Cédric Kahn, chef d'entreprise, un peu donneur de leçons. Mais voici que débarque par surprise leur sœur aînée, Claire, c'est Emmanuel Berco, partie 3 ans plus tôt aux États-Unis et qui revient avec ses affaires dans une petite valise et 3 sacs de supermarché et qui va retrouver sa grande fille, élevée depuis sa naissance par sa grand-mère. Claire qui va faire virer la fête, parfois en vaudeville, parfois en tragédie de famille. Bonjour Cédric Kahn.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous diriez de plus?
Rien,
c'était
parfait.
Et qui vous semble important?
Non, c'était parfait. Je trouvais les personnages bien campés. Voilà, que c'est un film de groupe, ouais, que pendant longtemps le film est joyeux. Moi, je voulais montrer une famille un peu fantaisiste, un peu excessive, et qu'effectivement, derrière l'apparente joie, il se cache des choses plus douloureuses. Ouais.
Et vous vouliez montrer des femmes.
Ouais.
Elles sont au centre du film, c'est leur complexité qui attire notre attention avec Catherine Deneuve et Emmanuel Berco, la mère et la fille.
Oui, des femmes, et quelles femmes. Enfin, j'ai fait beaucoup de films autour de personnages masculins,
ouais.
Donc c'était comme un baptême du feu pour moi, et en plus j'ai été servi par des actrices extraordinaires auxquelles je rajouterai la petite Louana Bajrami, qui joue la fille d'Emmanuel Berco, qui est aussi elle a seulement 18 ans, mais elle est déjà une actrice très puissante.
Une fille qui ne veut plus voir sa mère.
Oui, une fille traumatisée par le caractère un peu particulier de sa mère, et donc qui est élevée par ses grands-parents, dont on sent qu'elle est très, très résiliente, comme ça, très, très droite. Et elle veut plus voir sa mère, mais c'est plus compliqué que ça aussi, finalement. Il se passe quand même des choses plus compliquées dans sa tête.
C'est une famille comme beaucoup d'autres, avec ses égoïsmes, ses lâchetés, ses jalousies, ses névroses, ses histoires d'argent.
Ses mensonges, beaucoup de mensonges,
ouais.
Beaucoup de vérités qui se disent de façon très franche et très brutale, et aussi beaucoup de mensonges. Une cohabitation de la vérité et du mensonge permanente, et je trouve que c'est un peu ce qui définit les familles.
Et sa fantaisie aussi, parce qu'il y a dans votre film des chansons, du théâtre, un peu de danse.
Du cinéma.
Et du cinéma, puisque Romain a l'ambition de... Enfin, j'en dis pas plus, mais enfin, en tout cas, il filme. Ouais. Il a une caméra, donc il y a l'idée d'avoir
ouais, les différents plans. C'est une famille fantaisiste, où les enfants sont pas très bien élevés, d'ailleurs, où ils montent sur la table, ils boivent du vin, enfin bon, voilà. Il y a un désordre apparent, il y a une sorte de manque d'éducation, et en fait c'est à la fois joyeux et c'est aussi le problème, parce qu'il n'y a pas de cadre et il y a quelque chose qui va voler en éclats. Ouais.
Des conflits, mais on devine que ses frères et sœurs ont eu une enfance plutôt heureuse, en tout cas qu'ils se sont beaucoup aimés.
Bah, ce qu'on peut penser du personnage joué par Emmanuel Berco, qui est la sœur aînée, qui est la sœur d'un autre lit, en fait, c'est qu'il y a quand même un sentiment d'illégitimité. C'est comme si elle faisait et pas partie de cette famille. On sent qu'en tout cas, c'est l'enfant rebelle, qu'elle est partie, qu'elle a fugué. Enfin, là, on voit qu'elle a été à nouveau, elle a disparu pendant 3 ans, elle réapparaît, et on peut imaginer que ça a été un peu ça tout le parcours de sa vie. Ouais.
On entend tout de même cet amour, cette tendresse dans cette scène du début. Que j'ai choisi pour pas déflorer la suite, quand Vincent, vous-même, va retrouver sa sœur, il la ramasse sur le bord de la route.
J'ai cru que je n'arriverais jamais ici. Tu sais, j'avais plus assez d'argent pour prendre le train, alors j'ai fait du covoiturage. Et je suis tombée sur un dingue qui essayait de me sauter. Et quand il a compris qu'il n'y arriverait pas, il m'a laissé comme une merde sur le bord de la route. J'ai continué à pied tant que j'ai pu. Je voulais arriver toute seule, tu vois, comme une fleur, ou faire la surprise, embêter personne. Et puis c'est cette pluie, cette satanée pluie là, qui m'en a empêchée. Tu peux me dire pourquoi il pleut tout le temps dans ce putain de pays de merde?
Mais non, il pleut pas tout le temps. Pareil que même cet après-midi, il fait beau. Bon allez, qu'est-ce qu'on fait? On y va? T'es prête?
J'ai pas de cadeau pour maman.
On s'en fout, le cadeau c'est toi.
L'amour.
Tu te souviens quand on chantait ça?
À l'amour, c'est un printemps craintif.
Emmanuel Berco, Cédric Kahn et la voix de Mouloudji, l'amour sur une chanson que frères et sœurs
connaissait, chantait.
Ouais, ouais, c'est un hymne familial. J'imagine que c'est une chanson que les parents aimaient, qu'ils écoutaient enfant. Et donc voilà. Mais c'est un peu le rôle des chansons dans le film d'ailleurs. Ça ramène de la nostalgie. Ouais.
Et la nostalgie et de l'amour, parce qu'il y a quand même pas mal d'amour dans votre film, même s'il est parfois contrarié et compliqué.
Et cruel, ouais. Non, il ne s'agit que d'amour. Hein. Moi, je crois que tous ces rapports familiaux qui sont chaotiques, des fois violents et tout ça, finalement, c'est de l'amour qui s'exprime de plein de manières.
Et dans cette voiture, dans la scène qu'on vient d'entendre, il n'y a pas seulement deux acteurs, deux très bons acteurs, il y a deux cinéastes, Emmanuel Berco et vous. C'est un hasard.
Vincent Macken est un grand metteur en scène
ça,
de théâtre.
Ça ferait une fratrie de metteurs en scène.
Ouais, et je pense que ça a participé de... Moi, je les ai vraiment considérés comme des alter ego. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez équilibré dans notre fratrie. On a des parcours un peu communs. Ouais.
C'est la première fois que vous jouez dans un de vos films.
Absolument, absolument.
Compliqué, non ?
Compliqué dans l'idée. Avant, j'avais beaucoup de craintes et jubilatoire pendant.
J'ai lu que vous disiez que c'était un film que vous aviez envie de faire depuis longtemps, vous portiez depuis longtemps. Ça veut dire que ça résulte de souvenirs personnels ?
Oui, enfin, en tout cas, quelque chose dans ce sujet qui me tenait à cœur. Voilà, je voulais parler de cette pathologie-là ou de comment une famille gère un cas comme ça. Mais il m'a fallu du temps pour me décider à le faire.
C'est-à-dire avec quelqu'un d'un peu en marge, non, d'un peu déviant, d'un...
Voilà, et puis mais c'est surtout la famille, comment le groupe se définit par rapport à ça. Est-ce que c'est le groupe finalement qui est plus fou qu'elle? Enfin voilà, je voulais aussi qu'on passe par toutes ces choses-là. Je voulais rendre hommage aussi à cette forme de pathologie et dire que voilà, que dans cette marginalité-là, il y avait des choses formidables, très vivantes, très fantasques. Mais j'avais besoin de cette forme comme ça, très, très serrée, ce huis clos, cette unité de temps, la comédie aussi. Il me fallait aussi trouver ce ton de comédie. Je voulais absolument aborder ça par la comédie.
Et ça paraît bizarre de vous demander ça parce que vous incarnez l'un des personnages, je le disais, Vincent, mais vous vous identifiez spontanément à qui dans cette...
En fait, bizarrement, plutôt au personnage joué par Vincent McCain, c'est-à-dire le petit dernier qui veut être artiste et dont tout le monde se fout. Mais,
qui a mieux réussi que lui, quand même.
Ouais, voilà, je suis un peu moins foireux, mais par contre, c'est vrai que en me donnant ce rôle-là, je me moque aussi d'un de mes traits de caractère, qui est un peu la tendance à la rigidité, à donner les leçons un peu aux uns aux autres.
Dans le personnage de Vincent, le chef d'entreprise.
Ouais,
vous êtes comme ça
un peu.
Redresseur de tort.
Un peu.
Merci beaucoup. Cédric Kahn, Fête de famille à l'affiche mercredi prochain avec, entre autres, Catherine Deneuve, Emmanuel Berco et Cédric Kahn et Vincent Macaigne. Merci à vous.
Merci à vous. Europe 1.